Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Themavet.
Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job.
Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
Belle écoute.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Théo Noguer. Bienvenue Théo.
Bonjour Sophie.
Théo, tu es jeune vétérinaire sorti de Lyon en 2020. Tu es fondateur d'une association appelée Solivet, qui accompagne les structures sociales dans la prise en charge de propriétaires d'animaux. En parallèle, tu exerces en tant que vétérinaire dans une clinique à Lyon et aussi en tant qu'éducateur canin pour l'école Chien Guide d'Aveugles de la même région. Enfin, tu es également enseignant en éthologie pour l'école d'ASV. Déjà un sacré parcours. Alors Théo, tu partages ta vie avec ton chien Junkie, un labrador de 7 ans et demi, et tu cultives, tu me dis, une petite passion pour les plantes d'intérieur.
C'est ça, exactement.
Tu es passionné par la médiation animale et animé par la force des liens entre les animaux et les humains dans notre société. Ton objectif global, qui unit tes projets, est d'utiliser ce lien pour faire évoluer la société. Alors, avant de te passer le micro, je te dis déjà un énorme bravo. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi de nouveau. Tu as été un de mes tout premiers entretiens, pour ne pas dire Kobe, pendant le Covid, sur mon premier podcast, le podcast KPI. Alors, je te suis sur les réseaux depuis et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, tu vas avoir l'occasion de nous raconter tout ça, je l'espère. Alors, on va démarrer par ce qui est ma première question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire ?
Je pense que ça a toujours été un rêve d'enfant de devenir vétérinaire. Enfin, en tout cas, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Je vivais à la campagne avec mes parents. On avait pas mal d'animaux, des poules, des canards, des chats, des lapins, des poissons, etc. Et donc, du coup, le fait de grandir entouré de ces animaux, je pense que ça m'a donné cette envie d'être vétérinaire. J'ai eu la chance d'avoir un parcours scolaire qui me l'a permis. Et puis, c'est vrai que un peu, sans trop réfléchir finalement au débouché derrière ou à ce que je voulais faire, je suis rentré à l'école vétérinaire en me disant « Je vais bosser en tant que vétérinaire, ça va être génial, etc. » Il se trouve que l'avenir m'a un peu donné tort puisque j'ai d'abord commencé par ne pas exercer en clinique, mais j'y suis revenu. Donc, c'est que visiblement, c'est quelque chose qui me plaît.
Donc, c'était vraiment le côté soigner les animaux ou en tout cas travailler avec les animaux qui t'animaient au départ ?
C'est ça. Et puis, je suis même rentré à l'école vétérinaire, pour tout te dire, avec la volonté d'être véto-rural, donc de travailler plutôt avec des grosses espèces, dans des élevages, etc. Il se trouve que ça m'a, le monde de l'élevage en général m'a moyen plu lorsque j'y ai été confronté dans des stages d'observation, etc. Donc, finalement, je me suis réorienté, si on peut dire, vers de la médecine animaux de compagnie. Mais en tout cas, c'est vraiment ce côté médecine et travailler au contact d'animaux qui me motivait.
Et je pense que tu as assez rapidement découvert une passion pour l'associatif. C'est ça, en 2014, il me semble, avec la recréation du dispensaire. Tu peux nous expliquer ça ?
C'est ça. Et ben, en 2014, du coup, j'entrais en école vétérinaire. Et à l'école vétérinaire, bah du coup, suite à 2 ans de prépa, j'avais pas mal de temps libre et donc la volonté de m'engager dans un projet associatif. Il se trouve qu'avec un petit groupe d'étudiants vétérinaires à l'époque, on avait entendu parler d'une association qui s'appelait le Dispensaire Vétérinaire Étudiant, qui était une association de Lyon qui avait fonctionné pendant quelques années puis qui s'était arrêtée. Et on a décidé de la relancer tous ensemble. Le but de cette association, c'était d'aller au sein de la métropole de Lyon voir les personnes sans domicile fixe et soigner gratuitement leurs chiens. Donc nous, ça nous servait parce que j'étais tout jeune étudiant vétérinaire du coup à l'époque, j'étais en première année et ça m'apportait un petit peu ce côté pratique qui manquait un petit peu avant la troisième, quatrième année qu'on rentre en clinique. Et puis, pour ces personnes-là, c'était essentiel parce que ça leur permettait d'accéder à des services dont elles n'avaient pas forcément, auxquels elles n'avaient pas forcément les moyens d'accéder en temps normal. Ce projet-là, il m'a bien plu à tel point que j'y suis resté pendant toute ma scolarité. J'ai même décidé en 2018 de faire une année de césure pour me consacrer pendant un an à temps plein, d'essayer de développer au maximum l'association pour voir comment, jusqu'où on pouvait la porter ensemble. Et puis du coup, à la sortie de l'école vétérinaire, j'ai souhaité continuer dans ce domaine-là en montant Solived, donc avec la volonté toujours de travailler auprès de ce public en grande précarité et de leurs animaux.
Et donc, le dispensaire vétérinaire, ça existe encore aujourd'hui. C'est plus toi qui gères cette partie-là, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça a été repris par des étudiants et ça change d'ailleurs chaque année. Mais c'est hyper important et hyper intéressant, je trouve, d'avoir réussi à garder cette association pour que les étudiants vétérinaires qui viennent quand même de milieux généralement assez aisés puissent être confrontés aussi à un public qui n'a pas forcément les moyens de payer de consultations, qui d'un public sans domicile fixe en général, hein, parce que mais pour la plupart des étudiants et pour moi à l'époque aussi, c'est souvent la première fois qu'on interagit avec une personne SDF réellement lorsqu'on se retrouve en consultation avec elle, parce que dans la rue on se dit bonjour, on donne une pièce éventuellement, mais voilà, l'échange s'arrête souvent là. Puis je trouve que ça rentre bien dans le cursus des étudiants vétérinaires français, en tout cas, parce que à l'école vétérinaire, c'est pareil, on est devenu un petit peu, l'école vétérinaire est devenue un petit peu un centre de spécialistes, et donc il y a que des cas très compliqués de médecine avec des seconds avis, etc., souvent référés par leur vétérinaire habituel qui se rendent à l'école, des propriétaires qui savent qu'ils vont payer des grandes sommes et que ça dérange pas, et donc finalement on a un gros biais sur le public, les clients qui se présentent au centre hospitalier universitaire. Donc finalement, ça venait assez bien compléter ma formation, du moins c'est l'impression que j'en ai eue, en apportant ce côté un peu plus médecine de première opinion et public où il faut faire attention au côté financier.
Et c'est tous les étudiants qui participent au dispensaire ou c'est aléatoire?
Alors c'était les étudiants volontaires. Il se trouve que lorsque j'ai quitté le dispensaire, on était près d'une centaine d'étudiants bénévoles chaque année. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait à peu près un étudiant sur deux de première année qui s'inscrivait au sein de l'association et donc qui passait auprès des publics sans domicile fixe. Donc ça touchait quand même une grosse partie des étudiants, sans dire tout le monde. Depuis, on avait déjà réussi d'ailleurs à l'époque à faire rentrer cet engagement associatif au sein du cursus des étudiants vétérinaires, puisque ceux qui étaient suffisamment engagés dans l'association se voyaient récompensés par des crédits ECTS et donc une petite mention sur le diplôme comme quoi ils avaient participé aux activités du dispensaire. Depuis, l'école vétérinaire est même allée plus loin en créant un projet qui s'appelle Balto et qui, pour le coup, fait partie intégrante du cursus des étudiants vétérinaires où tous vont y passer. Et avec une journée, une demi-journée auprès de publics sans domicile fixe.
C'est top. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans les autres facultés ?
Alors, ça a été à Lyon, on a été assez innovant là-dessus. Pour le coup, on était la première structure où ça avait été créé. À Alfort, il y avait eu un dispensaire étudiant qui avait fonctionné quelques années puis qui s'était arrêté. Et puis là, depuis maintenant 2020, avec le plan de relance et la recréation de l'association Vétérinaire pour tous, ces projets de dispensaires étudiants, ou en tout cas de dispensaires étudiants laïcs, sont en train de se multiplier dans les écoles. Ça a été relancé à Nantes, ça a été lancé à, enfin lancé pour la première fois du coup à Nantes, ça a été relancé à Alfort, donc c'est en train de se diffuser en tout cas.
Ah, c'est super. Et comment ça se passe d'un point de vue plutôt pratique sur le terrain? Est-ce que c'est, j'imagine qu'ils sont globalement reconnaissants, les gens que vous accompagnez avec leurs animaux, mais j'imagine aussi que vous pouvez être confronté à des situations un peu plus compliquées.
Oui, alors sur le terrain, il y avait quand même un gros biais qui était que ben, en France, l'exercice de la médecine vétérinaire dans la rue est interdit, on doit être sur un lieu d'hébergement de l'animal. Et donc du coup, nous on exerçait uniquement au sein de centres d'accueil d'hébergement ou au sein d'accueil de jour. Donc c'était finalement, on se déplaçait au contact de ce public-là, mais ce public-là avait aussi un petit chemin à faire pour venir nous voir. Il fallait qu'ils se rendent à l'accueil de jour, à demi-journée où on y était. Voilà. Donc ça amenait quand même un petit biais dans notre exercice, parce que du coup, on avait uniquement les personnes volontaires qui souhaitaient vraiment amener leur animal qui se présentait. Donc finalement, on a peut-être un gros biais sur les cas de maltraitance, etc., qu'on voit pas, parce que les personnes exactement comme en clinique, hein, les personnes qui ne prennent pas soin de leurs animaux, elles l'amènent pas chez le vétérinaire, et donc finalement, on les voit pas, on les connaît pas. Pour celles qui venaient avec leur animal au sein de ces structures-là, donc du coup, on transformait une salle en centre de soins temporaire pour une demi-journée, une journée, enfin, ça dépendait un petit peu du nombre d'animaux qui étaient prévus. Et la consultation se passait finalement comme dans un cabinet, ou plutôt comme à l'école vétérinaire, c'est-à-dire que les étudiants faisaient la pré-consultation. Il y avait un enseignant qui était là, à qui on présentait le cas, qui vérifiait, et puis on faisait les vaccinations, les identifications. Ça tournait quand même beaucoup autour de la médecine préventive ou de la médecine de première opinion, des petits problèmes de peau, des petits problèmes d'otite, etc. Mais il se trouve que globalement, les animaux étaient plutôt en bonne santé. Et c'était surtout une façon de soulager le propriétaire et puis de le valoriser dans sa responsabilité de maître, de propriétaire d'animaux de compagnie, parce que c'est des personnes qui ont tendance à être quand même à prendre bien soin de leurs animaux, je trouve, de façon générale, et qui ont aussi besoin qu'on leur dise, parce que quand on traverse des périodes difficiles comme ce qu'elles vivent souvent à ce moment-là, ça fait du bien de s'entendre dire qu'elles font les choses correctement et que voilà, c'est top.
Oui, ça fait partie presque de leur réinsertion dans la société, quoi, parce qu'ils sont marginalisés de manière générale.
C'est ça. Et puis, dans tout le parcours de réinsertion, on est sur un dispositif quand même assez descendant, où finalement, le travailleur social va dire à la personne SDF ce qu'elle doit faire, doit faire tel papier, etc. La personne SDF, elle subit un petit peu sa réinsertion. En tout cas, enfin, elle est, on est vraiment dans un système très très vertical sur la réinsertion classique. Hein. Je parle donc avec les centres d'hébergement, puis le logement, etc. Ces consultations vétérinaires, c'est quand même un moment souvent où on renversait un petit peu ce rapport de force. Où finalement, le propriétaire de l'animal, c'est lui qui en savait le plus sur son animal à ce moment-là. Et du coup, il arrivait, souvent, il y avait un travailleur social qui participait aux consultations parce qu'il était intéressé, parce que c'était le travailleur social de la personne qui venait et que ça la rassurait qu'il soit là, etc. Mais c'est le propriétaire qui était en position de force, entre guillemets, qui savait le plus de choses sur son animal, qui nous parlait vachement, qui nous racontait plein d'anecdotes, etc. Et donc, ça lui faisait du bien aussi d'apprendre des choses à son travers social, de nous apprendre des choses sur son animal.
Donc ça, c'est toute la partie dispensaire vétérinaire. Comment est née Solivette? Dis-nous tout.
Eh ben, Solivette est née à la fin des études, où j'étais fort de cette expérience-là. J'avais vraiment envie de continuer sur ce public-là. Mais d'un autre côté, après y avoir passé 6 ans en comptant mes 5 années d'études plus mon année de césure, je voyais aussi les limites d'un tel projet. Et les limites qu'il y a en France aujourd'hui, et le gros problème qu'il y a en France aujourd'hui avec les personnes sans domicile fixe qui ont des animaux, c'est que globalement, les centres d'hébergement et les accueils de jour n'acceptent pas que les personnes viennent avec leurs animaux. Et on va leur poser ce dilemme un petit peu impossible de leur dire, bah, soit tu restes à la rue avec ton chien, soit tu te sépares de ton chien et tu viens dormir au chaud. Et ce qui fait qu'un grand nombre de propriétaires d'animaux qui n'ont finalement plus que leur chien dans leur vie choisissent de rester à la rue avec leur chien et perdent un petit peu confiance en l'institution, n'ont plus recours au dispositif de réinsertion parce qu'elles savent qu'avec leur chien, c'est compliqué, ça va même être impossible. Lorsque j'ai commencé en 2014 au dispensaire, il faut savoir qu'il y avait une trentaine de centres d'hébergement sur Lyon. Sur les 30, il y avait un seul centre qui accueillait les propriétaires de chiens en collectif et il y avait une trentaine de places. Même pas une trentaine de places, pardon, une dizaine de places d'hébergement pour des personnes seules avec chien. Donc, globalement, 10 SDF avec chien, ça représente pas la réalité d'une ville telle que Lyon, où on est plutôt à quelques centaines, voire milliers de personnes sans domicile fixe qui ont des chiens. Donc, il y a quand même un gros décalage entre ce qu'on pourrait appeler l'offre et la demande, en tout cas entre la réalité de terrain et ce qui est proposé par le système de réinsertion. Et finalement, l'initiative du dispensaire vétérinaire, elle venait travailler avec les structures sociales. On venait les accompagner, on leur fournissait la garantie sanitaire que les animaux n'allaient pas apporter de maladies, de parasites dans la structure. Mais souvent, pour la structure, c'était pas suffisant parce que les centres d'hébergement qui n'accueillent pas ou qui n'accueillaient pas les propriétaires d'animaux de compagnie, c'était pas uniquement pour des raisons sanitaires, c'était plutôt parce que il y a une grosse peur autour de l'animal, peur que ça se passe mal, peur des violences, peur des morsures, et puis une peur de l'équipe de travailleurs sociaux sur le moment. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Solivet, donc avec quelques membres que j'avais rencontrés lors de cette première expérience, une enseignante de l'école vétérinaire, une éthologue, une responsable d'association d'aide aux personnes sans domicile fixe, un vétérinaire, et on s'est dit finalement, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus au-delà de cet aspect de soins, comment on peut vraiment accompagner ces structures, ces centres d'hébergement au changement afin que demain peut-être toutes les structures d'hébergement en France puissent proposer une ou deux places ouvertes aux propriétaires de chiens et que finalement posséder un animal de compagnie soit plus un frein à la réinsertion dans un premier temps. Et on a même voulu pousser jusqu'à plus loin parce que, comme tu le disais en introduction, moi, je suis passionné de médiation animale et je suis persuadé que l'animal, il apporte énormément à son propriétaire et que son propriétaire apporte énormément à l'animal. Et je me suis dit, finalement, comment on peut s'appuyer sur le lien qui existe déjà entre ces personnes sans domicile fixe et leurs animaux pour essayer d'accélérer leur réinsertion. Donc, on va travailler sur toutes ces notions-là de médiation animale auprès de publics sans domicile fixe dans les structures. Donc voilà, c'est un petit peu sur tous ces constats-là qu'a été créé Solivet. Avec cette volonté d'accompagner des structures sociales, d'accueil, d'hébergement, de logement sur la prise en charge de publics précaires accompagnés d'animaux de compagnie. Dans un premier temps, on a travaillé autour de trois grands axes. Le premier, c'était la formation des équipes de travailleurs sociaux et d'éducateurs spécialisés en place dans ces structures-là. Les former à déjà savoir ce qu'est un animal de compagnie, savoir ce qu'est un chien, comment ça fonctionne et que c'est pas un loup apprivoisé, que c'est pas un animal imprévisible complètement, enfin voilà, casser un petit peu toutes les idées reçues qu'il peut y avoir en fait finalement autour de l'animal pour des personnes qui ne travaillent pas avec et qui n'en côtoient pas forcément parce qu'elles en ont pas dans leur entourage. Donc on va travailler sur tous ces côtés d'approche comportementale afin que l'accueil puisse se faire dans les meilleures conditions, en toute sécurité, tant pour le propriétaire que pour l'animal et le travailleur social. Dans un deuxième temps, donc du coup, il y a toujours ce côté d'enjeu sanitaire qui reste en place, qui reste présent en tout cas parce que les structures sociales, si elles acceptent de jouer le jeu, de recevoir les propriétaires d'animaux de compagnie, le but, c'est pas que l'animal demain se mette à ramener des puces et que ça pique tout le monde dans la structure ou bien qu'il ramène la gale parce que c'est encore des choses qu'on a quand même pas mal dans les squats, etc. Tout le monde l'est, enfin voilà. Donc, il y avait tout un travail à faire autour de cet aspect de soins vétérinaires, en tout cas de suivi vétérinaire des animaux de personnes sans domicile fixe. Donc, on aidait à la mise en place de permanences vétérinaires qui étaient réalisées par des vétérinaires bénévoles. qui se déplaçaient dans les centres pendant une demi-journée, une journée pour vacciner, identifier, traiter contre les parasites et puis faire tout ce qui était la médecine de première opinion, finalement assez proche de ce qui était fait par le dispensaire étudiant, mais avec des vétérinaires en exercice dans leur cabinet qui prenaient un petit peu de leur temps pour venir faire cette activité. C'est une activité qui a été pas mal reprise par l'association Vétérinaire pour tous qui s'est relancée, et je pense qu'on pourra en rediscuter, la nouvelle initiative de l'ordre qui... de l'ordre vétérinaire, de la VAC et du syndicat qui vient apporter une vraie réponse à ces questions de médecine solidaire. Et puis enfin, il y a un troisième axe d'action sur lequel on a pas mal travaillé, qui était l'accompagnement comportemental des animaux et de leurs propriétaires lors du retour en hébergement ou en logement, parce que on parle de chiens qui quand même, la plupart du temps, sont nés dans la rue, ont grandi dans la rue, avec un propriétaire qui était tout le temps présent, avec un groupe social de chiens autour d'eux, avec des conditions de vie très particulières, des animaux qui sont souvent en liberté, à plusieurs, qui voient passer du monde toute la journée, etc. Donc, c'est des animaux qui sont généralement bien sociabilisés, mais par contre, qui possèdent pas forcément les codes d'une vie en appartement ou en maison classique. Ils n'ont jamais expérimenté la solitude. Ils ont parfois pas appris à être propres alors qu'ils ont 6-7 ans, mais parce que lorsqu'ils vivaient à la rue, ben il n'y a pas besoin que le chien soit propre, il se déplace un petit peu, il va faire ses besoins au pied de l'arbre et puis il revient. C'est quelque chose, ben, forcément, lorsque la personne va passer en hébergement ou en logement, qui peut poser problème, puisque c'est souvent le moment où le propriétaire va commencer à s'absenter pour refaire des démarches administratives, essayer de retrouver du travail, donc le chien va être seul dans le logement, et avec toutes les problématiques d'un chien qui n'a jamais été seul et qui devient seul pour la première fois, c'est-à-dire qu'il va aboyer, éventuellement détruire, qui peut commencer à présenter des signes d'agressivité. Tout ça, le bailleur, aussi motivé soit-il par le fait d'accueillir les propriétaires d'animaux, il va être OK pour repayer une fois l'appartement que le chien aura saccagé, mais quand ça fera 2-3 fois, ça commence à être difficile et ça questionne le maintien en hébergement de la personne. Donc, il y avait une véritable nécessité d'accompagner ce changement-là pour que ça se passe au mieux et que aussi bien pour le propriétaire finalement que pour l'animal et que y ait une relation apaisée entre le bailleur et les propriétaires.
Ok. Et donc, aujourd'hui, vous démarchez les centres. Enfin, j'imagine que vous avez probablement tous démarché aujourd'hui à Lyon, non ?
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, alors on travaille sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, même maintenant. Alors, on les a tous contactés, on a tous discuté avec eux. Maintenant, tous ne sont pas encore prêts à changer vers un accueil des propriétaires d'animaux de compagnie, parce que c'est pas le bon moment, parce que le projet d'établissement est en train d'être fait, que ça s'est reporté d'une ou deux années, parce qu'ils sont en sous-effectif et que du coup, questionner leur méthode, c'est peut-être pas le moment adéquat, etc. Donc, il y a plein de choses qui font que toutes les structures ne sont pas prêtes à changer. Aujourd'hui, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a travaillé avec une trentaine de centres, la plupart qui accueillaient déjà des propriétaires d'animaux de compagnie, mais qui toléraient finalement l'animal plus qu'ils ne l'accueillaient, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'aménagement spécifique pour les animaux, les travailleurs sociaux ne savaient pas comment réagir. Il y avait parfois des situations du coup assez tendues avec des chiens, des malentiers qui se croisent dans un couloir et qui se saute dessus et puis personne ne sait quoi faire et donc du coup quelqu'un se met au milieu et se fait mordre, enfin voilà, on était sur de l'accueil de l'animal finalement qui avait été un peu subi plus que pensé, et donc on a accompagné pas mal de centres comme ça, et puis depuis 2022 on a commencé à accompagner aussi une dizaine de centres qui n'accueillaient pas du tout les propriétaires d'animaux de compagnie et qui se sont mis à les accueillir, qui ont reçu leur premier SDF avec un chien. Et chez qui ça se passe relativement bien.
Oh, c'est super. Et du coup, les trois axes dont tu as parlé, ça, c'est systématique que vous accompagnez sur ces trois axes-là, j'imagine. Et vous avez un certain process. Je ne sais pas, vous êtes combien, comment ça se passe au niveau pratique?
Alors aujourd'hui, on est 2 salariés au sein de l'association. On travaille avec 2 autres formateurs pour la partie donc, du coup, de formation professionnelle, et on travaille avec 4-5 éducateurs canins sur la partie de suivi comportemental des animaux. Pour nous, c'est important de bosser en équipe pluridisciplinaire parce que j'ai beau être vétérinaire, je suis passionné de comportement, je fais des consultations spécialisées, enfin spécialisée en comportement au sein de ma clinique, c'est pas pour autant que je sais tout et que j'ai la possibilité d'intervenir de partout sur toutes les problématiques de comportement. Donc du coup, j'aime bien bosser avec des éducateurs canins. Je trouve que ça apporte pas mal de choses, un regard un peu nouveau sur la question. On travaille du coup avec ces centres effectivement sur les trois axes, la formation, le suivi vétérinaire et l'accompagnement comportemental. Après, selon où en est la structure, on va commencer par l'un ou par l'autre. Sur les structures qui n'accueillent pas du tout les propriétaires d'animaux de compagnie, évidemment, le suivi comportemental, c'est pas la priorité. La priorité, c'est d'aller former les équipes, de repenser le règlement intérieur, de repenser les modalités d'accueil au sein de la structure, et puis de valider l'entrée du premier chien, de faire en sorte qu'il soit vacciné, identifié lorsqu'il rentre dans la structure, qu'éventuellement il ait reçu une évaluation du niveau de dangerosité, non pas parce que c'est des chiens plus dangereux que les autres, mais simplement pour rassurer les équipes qui sont en place dans la structure. Et puis ensuite, seulement on peut commencer le travail d'éducation s'il y en a besoin. Il y a aussi un grand nombre de chiens qui s'y font bien, et pour lesquels finalement le suivi comportemental, il n'a pas besoin d'être là. Et c'est là où on peut décliner des fois des ateliers de médiation animale qui vont apporter autre chose et qui vont surtout apporter du travail, des outils de travail, en tout cas aux travailleurs sociaux qui sont en place.
C'est quoi les gros changements que tu vois apparaître dans les centres que tu accompagnes ?
Bah déjà, moi, je remarque une chose, c'est que depuis 2014, la société a quand même beaucoup évolué sur ces questions animales, et les centres d'hébergement sont pas en reste. Et finalement, cette question de la place du chien, elle se pose de plus en plus dans les centres d'hébergement, y compris dans ceux qui accueillent pas les animaux de compagnie. Et c'est un discours, je me souviens, lorsque j'étais étudiant. Alors, est-ce que c'est le côté aussi... J'étais étudiant et donc peut-être un peu moins crédible qu'aujourd'hui, mais en tout cas, lorsqu'on rencontrait des centres à l'époque, en 2014, 2015, 2016, on avait le centre qui n'était pas forcément très motivé sur ces questions animales. Et aujourd'hui, bah, lorsqu'on les rencontre, c'est des réflexions qu'ils ont déjà eues en équipe, qu'on leur pose régulièrement, etc. Ça va même plus loin parce que depuis cette année, on a deux centres qui sont venus à nous parce que l'État, dans leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, donc dans le contrat qui lie l'État avec ses centres d'hébergement, a obligé les centres d'hébergement à accueillir des propriétaires de chiens. Donc on est sur un rapport de force qui est en train de changer un petit peu sur ces questions animales, où vraiment avant c'était pensé on accueille la personne et si la personne a choisi d'avoir un chien, c'est son problème, il reste à la porte ou elle s'en sépare, mais nous on est là pour la personne. Là où aujourd'hui les centres sont vraiment en train de se dire bon bah finalement on doit travailler sur l'inconditionnalité de l'accueil des personnes sans domicile fixe en France, et cette inconditionnalité fait qu'on accueille les gens tels qu'ils sont, et s'ils ont choisi de vivre accompagnés d'un animal de compagnie, s'ils ont choisi de former ce binôme humain-animal, et ben finalement on les accueille tous les deux, et c'est ça qui est intéressant.
C'est quoi, tu penses, qui a fait changer ça dans la société ? Tu penses qu'il y a quelque chose en particulier ?
Bah, je pense que la crise du Covid a quand même pas mal aidé. C'est rare de dire ça, mais la place de l'animal de compagnie a quand même beaucoup évolué et c'est devenu un vrai membre de... Enfin, ça l'était déjà un peu, mais ça s'est accentué pendant la crise du Covid où l'animal est vraiment devenu un membre de la famille à part entière. Et donc, ça forcément, ça joue sur le rapport qu'on a aux animaux des autres aussi, parce que si pour nous, certains travailleurs sociaux, certains directeurs de centre ont des chiens chez eux, et ils voient bien que leur rapport avec leur chien a changé, qu'aujourd'hui, ils ont envie de l'amener au travail, ils ont envie de partager plus de choses avec eux, et donc du coup, forcément, lorsqu'ils voient un SDF avec un chien, ils projettent un petit peu sur eux, et donc ça change les relations qu'ils avaient avec eux. Je pense que derrière, il y a aussi un gros travail de lobbying, c'est-à-dire qu'à force de répéter à ces centres-là qu'il faut accueillir les publics avec animaux, ça fait des années qu'on le fait, que plusieurs structures le font, forcément, ça joue un peu, et ça fait qu'aujourd'hui, on arrive à des résultats, mais finalement, faire changer une structure, faire changer des mentalités dans une structure, c'est assez long et c'est un travail de plusieurs années. Et peut-être que finalement, le changement qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail qu'on a commencé il y a des années.
Mmh, mmh. je fais une mini marche arrière pour ensuite retourner vers la suite. Mais cette graine associative et entrepreneuriale, bon, les deux étant dissociables, hein, bien sûr, c'est quelque chose qui était toujours en toi, tu penses ?
Alors, la volonté de faire de l'associatif, oui. En tout cas, j'avais envie de m'engager dans des projets, j'avais envie de monter des choses en dehors de mon travail, et je voyais pas on a tous des moteurs différents dans la vie, et le côté travail a rarement été un moteur pour moi, où mes activités autour étaient quand même importantes. Et je pense que du coup, bah, quand l'associatif a pu devenir mon travail, ça m'a quand même pas mal aidé, parce que cette activité a finalement loisir, mais en tout cas cette activité dans laquelle je me plaisais à côté de mon travail et de mon travail, donc forcément c'est motivant. Le côté entrepreneurial, je l'avais pas du tout, et c'est d'ailleurs un des gros une des choses que je reproche peut-être un petit peu aux écoles vétérinaires, qui est qu'aujourd'hui, bah, on forme des vétérinaires à être des très bons médecins, mais on les forme pas du tout à être des très bons chefs d'entreprise, alors que la plupart d'entre eux vont être gérants de leur cabinet, associés un jour, et il manque terriblement de cours de management, de cours de gestion de projet, etc. Même si je sais que c'est quelque chose qui est travaillé en ce moment et qu'ils essayent de l'implémenter. En tout cas, moi, j'ai dû me faire accompagner par pas mal de structures hors école vétérinaire pour développer ce côté entrepreneurial, parce que je manquais d'outils, je manquais de règles assez basiques finalement, mais qui sont essentielles dans le montage de projet.
Ben, peut-être explique-nous un petit peu, alors comment justement tu as été chercher l'accompagnement pour lancer cette association, par exemple.
Alors l'accompagnement, moi j'ai démarré en 2017, on avait répondu à un appel à projet qu'on avait vu passer sur des projets étudiants d'innovation sociale, et on s'est dit, oh bah, ce qu'on fait finalement, c'est avec le dispensaire étudiant, c'est assez innovant, personne d'autre en France le fait, ça fait que quelques années qu'on a réussi à le relancer, on est des étudiants, donc ça tombe bien, on colle toutes les cases. On a répondu à cet appel à projet là, et puis à la grosse surprise de tout le monde et de nous en premier, je pense, on a fini lauréat d'un appel à projet national sur les questions d'innovation sociale. Et dans les prix de cet appel à projet, il y avait donc un prix financier, mais il y avait surtout un accompagnement par une structure qui s'appelait Animafac, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Animafac, qui accompagnait des projets étudiants. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à être formés à tous ces côtés-là. Par la suite, on a découvert du coup le milieu entrepreneurial avec tout ce qui est incubateur de projets, accélérateur, etc. On est rentré à la suite de notre parcours chez Animafac, on est rentré dans un incubateur de projets étudiants qui s'appelle Enactus. Voilà, un incubateur de projets sociaux, parce que pour nous, c'était important de garder ce petit côté social aussi. Et c'est vrai que là, on y est resté 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et je pense qu'en 3 ans, j'ai appris l'équivalent de 10 ans d'entrepreneuriat. Enfin, c'était hyper dense comme accompagnement et hyper complet. J'ai adoré. Voilà. J'ai pris le statut étudiant entrepreneur pendant mon année de césure aussi. Donc, j'ai été suivi par l'Université de Lyon. J'ai participé à des cours. J'ai fait un diplôme qui s'appelle le diplôme étudiant entrepreneur aussi. Donc, un diplôme en management et gestion de projet. Voilà. Et puis, à la suite de ça, lorsque j'ai monté Solivet, cette fois-ci, je suis rentré dans un vrai incubateur d'entreprise, et puis à la suite de cet incubateur d'entreprise, j'ai eu la chance de rejoindre en 2021-2022 l'accélérateur de la Croix-Rouge française, qui nous a permis de bien développer le projet Solivet, et puis bah, surtout d'expérimenter auprès de la Croix-Rouge et de créer un beau partenariat avec eux.
Ouais, c'est super ça. T'es encore chez eux aujourd'hui ou c'est fini cette partie?
Alors, l'accompagnement de l'accélérateur s'est terminé en juin. Maintenant, les projets avec eux n'en sont finalement qu'au début, puisque l'objectif de l'accélérateur était d'expérimenter une forme de partenariat, que cette expérimentation de notre côté s'est très bien passée, et donc qu'il est il y a en discussion en ce moment plusieurs projets communs pour fin 2022 et, 2000, et les années à venir.
Alors, forcément, je vais te demander s'il y en a dont tu voudrais parler.
Bon, c'est des projets assez simples, hein, finalement. Je pense qu'il n'y a rien de secret, mais l'objectif, en fait, pour la Croix-Rouge française, c'était de se questionner sur l'accueil des propriétaires d'animaux dans leur centre. Il faut savoir que la Croix-Rouge française, en France, peut-être que je vais raconter n'importe quoi sur les chiffres, j'essaie de me souvenir correctement, mais en termes de centres d'hébergement, on parle de 150-200 structures d'hébergement sur toute la France. Et lorsqu'on avait réalisé une petite enquête au début de cet accompagnement, il se trouve que sur les 150-200 centres, il y avait moins d'une dizaine qui accueillaient les chiens. Donc on est encore une fois sous le seuil des 10% de structures qui est souvent mentionnée sur l'accueil des propriétaires accompagnés d'animaux de compagnie. Donc l'objectif de la Croix-Rouge, qui se rendait compte aussi de leur petite faiblesse sur cette question-là, c'était de rendre leur centre un peu plus inclusif pour ces propriétaires d'animaux de compagnie. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir accompagner des centres de chez eux. On a accompagné là, sur le début d'année 2022, deux structures, une à Aix-en-Provence et une à Paris, avec lesquelles ça s'est très bien passé. Et puis l'objectif pour 2022-2023 en général, c'est de pouvoir passer à au moins une dizaine de structures nouvelles accompagnées.
Ah, top. Et j'imagine que ça n'a pas été toujours simple, toute cette mise en place de différents projets, que ce soit chez le dispensaire ou Solivette. Il y a des difficultés en particulier que tu as rencontrées pendant la mise en place de tout ça ?
Ouais. Il y a eu plusieurs difficultés. La première difficulté, peut-être que elle a peut-être été de l'ordre du juridique, parce que lorsqu'on lance des projets d'innovation, on est toujours un petit peu borderline sur des questions juridiques. En tout cas, on explore des choses nouvelles et donc des choses qui n'ont pas forcément été cadrées par la loi. Et nous, on s'est retrouvés lorsqu'on s'est mis à soigner des animaux de personnes SDF. Confronté au code rural qui interdisait la médecine foraine, qui interdit de réaliser des soins gratuitement dont peut tirer un bénéfice une structure tierce, etc. Et donc, on a eu de nombreuses discussions et parfois un peu compliquées avec l'ordre vétérinaire régional puis national pour réussir à trouver un compromis sur finalement comment on pouvait aller soigner ces animaux sans facturer aux propriétaires, parce que de toute façon, nous ne payons pas. Et que ce soit fait, que ça protège les intérêts de la profession quand même, mais qu'en même temps, on puisse faire un dispositif qui fonctionne. Se dire simplement, il faut que des vétérinaires accueillent des SDF et les fassent gratuitement dans leur cabinet, on sait que ça fonctionnera pas. Parce que les vétérinaires ont déjà peu de temps, ils connaissent les problèmes de recrutement de la profession, etc. Donc, avoir du temps pour un vétérinaire, c'est déjà compliqué. On n'a pas forcément envie d'avoir un SDF qui se pointe une heure après son rendez-vous, complètement alcoolisé au milieu de sa salle d'attente. C'est moyen pour les autres clients et je peux le comprendre aussi. Donc, de toute façon, les SDF souvent ne sont pas prêts à aller dans un cabinet classique parce qu'il y a toujours cette peur de, finalement, je vais payer, je vais être jugé, etc. Donc, il y avait besoin de créer ces espaces nouveaux de soins d'activité pour apporter une solution à ce public-là. Dont les animaux n'étaient souvent pas ou peu médicalisés. Et ça, d'un point de vue juridique, ça a été un peu compliqué. Ça a mis un petit nombre d'années. Maintenant, grâce à l'association, enfin, surtout grâce à l'arrivée de l'association Vétérinaire pour tous, tout a été... On a trouvé un compromis qui fonctionne finalement assez bien avec cette possibilité pour des vétérinaires d'intervenir dans des structures sociales, que ce soit des centres d'hébergement, des accueils de jour, etc. Il y a encore des difficultés. Vétérinaire pour tous, par exemple, prend en charge uniquement les soins aux animaux de personnes SDF sur des permanences comme ça, si elles sont réalisées avec les écoles vétérinaires, ce qui veut dire que pour les régions où il n'y a pas d'école vétérinaire, finalement, un vétérinaire ne peut pas se dire avec une structure, tiens, demain, je viens toute l'après-midi pour vacciner les 10 chiens qui... loge chez toi et je facture à Vétérinaire pour tous, c'est pas possible, donc il n'y a pas de prise en charge encore de ce côté-là. C'est un petit peu un frein qu'on a encore aujourd'hui, mais globalement, c'est des freins qui sont plutôt mineurs par rapport à ce qu'on a vécu ces dernières années. L'autre difficulté, qui est cette fois-ci plus générale sur plus générale, plus pour tous les entrepreneurs, je pense, c'est la difficulté lorsqu'on se lance de monter un business qui tourne et d'être de réussir à se rémunérer, de réussir à lancer une activité. En plus, nous, pas de chance, Olivette a été fondée en juin 2020. Donc, c'est-à-dire qu'on sortait de trois mois de confinement Covid. On a créé l'association en juin, en tout cas déclaré en préfecture en juin. Derrière ça, on s'est remangé deux confinements à la suite. Donc, monter une boîte à ce moment-là et tenter de faire un petit peu d'activité, surtout que c'est des choses qu'on peut pas trop faire en visio, nous, donc on a tenté de faire de l'activité en présentiel dans ces structures-là pour des publics qui souvent n'ont pas accès à la vaccination, donc n'étaient eux-mêmes pas vaccinés Covid. Voilà, c'était vraiment pas simple. Du coup, moi, je sortais tout juste de l'école vétérinaire, j'avais pas forcément un gros beaucoup d'argent de côté pour lancer ça, donc j'ai bossé pendant un an en tant que bénévole, mais il y avait quand même cet impératif financier de réussir à sortir un salaire quand même à un moment, parce que le bénévolat, c'est chouette, mais un jour, il faut quand même manger et payer ses factures. Et que vivre chez papa-maman, c'est c'est bien, mais à 26 ans, on aspire à d'autres choses.
Et papa et maman aussi, j'imagine, aspirent à d'autres choses.
C'est ça, ils étaient ravis de nous voir pendant le confinement, mais après, rapidement, ils ont envie qu'on vole de nos propres ailes.
Et comment ça se passe sur le côté financier? Vous fonctionnez au mécénat principalement? Vous avez des fonds?
Ouais, alors on a un petit peu, on a ce qu'on appelle un modèle économique hybride, c'est-à-dire qu'effectivement on a une part de mécénat, que ce soit public ou privé, avec des subventions donc Métropole de Lyon, Ville de Lyon, on demande une subvention à la ville de Grenoble aussi, parce que c'est un gros pôle d'activité pour nous. Et puis, certaines fondations d'entreprise, je pense notamment à la fondation Pièce d'Épargne, à Purina qui nous a soutenus au lancement de l'association, la fondation Massif. Et puis, je vais en oublier, ça va être... désolé. Et puis, on a toute une part d'autofinancement avec notamment les formations professionnelles qu'on réalise. On a réussi à être reconnu organisme de formation et à faire certifier nos formations Calliope. Donc aujourd'hui, ça fait partie intégrante du plan de formation des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés dans certaines structures. Et finalement, c'est les OPCO qui financent nos formations pour ces structures-là. Pareil pour la partie d'accompagnement comportemental de l'animal, comme derrière on fait intervenir des éducateurs canins et que la moindre des choses quand on fait venir des prestataires, c'est de les payer. Et ben c'est quelque chose qu'on facture aux structures sociales, en gardant en tête toujours que finalement c'est moins cher pour elle de payer un éducateur canin qui vient 3-4 fois travailler avec le propriétaire que d'avoir à refaire l'appartement parce que le chien a tout détruit. Donc c'est des choses qu'on facture aux structures sociales, qu'elles payent soit elles-mêmes, soit sinon il y a différents dispositifs, notamment auprès de fondations ou de groupements qui leur permettent de financer ça. Mais voilà, on a cette double part mécénat et autofinancement qui se valent à peu près, d'ailleurs, dans notre budget, on est à peu près à 50-50 sur les deux.
Ok, très clair. Et justement, cette partie éducateur canin, toi, tu t'y intéresses aussi, puisque tu es éducateur canin pour les chiens guides d'aveugles. Ça, c'est venu pendant, justement, Solivette, que tu as commencé à t'intéresser à ça, ou c'est quelque chose que tu faisais déjà avant?
Alors, moi, c'est venu pendant mes études, parce que pendant mes études, je me suis rendu compte que j'aimais bien le comportement animal, que je trouvais ça hyper intéressant. C'est finalement quelque chose d'hyper profond. Il y a plein. En plus, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est une discipline où il n'y a pas encore de consensus. Enfin, il y a peu de consensus et on voit bien, d'ailleurs, au sein des vétérinaires comportementalistes, il y a plein d'avis différents sur plein de choses et je trouve ça intéressant de creuser tout ça. J'ai été beaucoup aidé sur la création de Solivette par une vétérinaire, Catherine Escriou, qui est vétérinaire et maître de conférence en médecine des comportements à l'école de Lyon. Donc, je pense que ça m'a aidé à être finalement attaché à la médecine des comportements parce qu'elle m'aidait beaucoup et qu'on parlait souvent comportement animal. Donc, j'ai suivi une formation à la sortie de mes études en comportement, une formation du docteur Nathalie Simon. Et puis, du coup, c'est quelque chose que j'ai commencé. Alors, étonnamment, je n'osais pas commencer auprès des publics sans domicile fixe où je faisais intervenir des éducateurs canins. et j'ai plutôt commencé sur des cas assez simples de suivi prévention chiot à la clinique. Voilà, et puis maintenant je prends des consultations spécialisées en comportement sur de façon un peu plus large. Et puis du coup j'ai eu cette opportunité par la suite de travailler à l'école chien guide d'aveugle. Donc ça a commencé récemment puisque j'ai commencé en juillet cette année chez eux pour faire ce qu'on appelle la prééducation des chiots qui rentrent dans les parcours. Donc c'est le suivi entre la période où ils ont on va dire 2 mois et qu'ils arrivent dans leur nouvelle famille, qui sortent de l'élevage, qui arrivent à l'école chien guide d'aveugle, et à peu près 6-7 mois où ils vont vraiment commencer à apprendre le guidage, toute cette première partie où ils apprennent à vivre dans une maison, à être un bon chien de famille. Et ben finalement j'ai la chance de pouvoir suivre des petits chiots labrador.
Sympa.
Ouais, c'est mignon en plus.
Oui, tellement. J'entends un gros côté de transmission aussi dans ce que tu me racontes, parce que t'as aussi tu donnes aussi des cours d'éthologie à l'école d'ASV, c'est bien ça?
Ouais.
Et ça, c'est arrivé comment?
C'est arrivé par connaissance qui, en tant qu'ils recherchent quelqu'un pour donner des cours d'éthologie sur les sables, l'Institut Bonaparte à Lyon. Et puis, finalement, j'y suis allé et c'était chouette. J'adore ce côté, effectivement, ce côté de transmission. Et puis, encore une fois, me retrouver face à des gens qui, en termes de comportement, ont parfois entendu des choses complètement à l'opposé de ce que je leur raconte, voire qui ont expérimenté, voire qui ont eu une activité professionnelle dans le milieu du comportement animal, et qui est des fois à mille lieues de ce que moi je pense en termes de comportement, et donc de pouvoir s'enrichir du discours d'autres personnes, c'est hyper hyper intéressant, je trouve. Et ce côté de transmission là, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve à Solivette, à la fois par la partie de formation des travailleurs sociaux, où finalement on les forme pas mal au côté comportement animal. On travaille évidemment pas à des méthodes de rééducation, mais on va leur apprendre les signaux d'apaisement, comment voir qu'un chien est stressé ou bien qu'il est heureux, etc. Et puis c'est quelque chose qu'on transmet aussi pas mal aux personnes sans domicile fixe, qui font de leur mieux pour éduquer leurs chiens, qui souvent, je le disais, ont des chiens bien sociabilisés, mais le monde est pas tout rose non plus. Et en fait, les méthodes d'éducation qui sont utilisées sont souvent des méthodes assez coercitives qui datent d'il y a quelques dizaines d'années déjà, et qui sont qui nécessitent d'être mis un peu au goût du jour. Et c'est là où on a aussi tout un rôle à jouer, nous, en tant que professionnels du monde animalier. Je pense notamment à l'histoire d'un jeune sans domicile fixe qui était rapporté dans le livre de Christophe Blanchard, un sociologue qui étudie ces personnes-là, qui racontait que pour apprendre à son chien à pas traverser la route et à avoir peur des voitures, il se promenait en ville et des fois il prenait son chien, il le jetait contre une voiture à l'arrêt. Comme ça, le chien, il avait peur des voitures et il traversait pas la route. Ça partait d'un très bon sentiment, parce que c'est vrai que quand on est sans domicile fixe, si le chien traverse la route au mauvais moment, il est mort. Mais, d'autant plus qu'ils sont jamais en laisse. Mais, voilà, la méthode d'éducation est quand même très critiquable. Et là, on a un véritable rôle à jouer, parce que cette personne-là, elle pensait faire du mieux qu'elle pouvait pour le bien de son chien, mais en fait, elle a juste oublié que le chien, il n'aimait pas forcément être jeté contre une voiture.
Clairement. Et pourquoi tu penses qu'il y a si peu de consensus encore aujourd'hui au niveau comportemental et éducation?
Déjà, je pense parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu comportemental qui ont des égos un peu important. Donc le côté discussion est pas forcément souhaité par tout le monde. Et il y a beaucoup de comportementalistes, que soit en vétérinaire ou pas, hein, d'ailleurs, qui sont sûrs de ce qu'ils font, qui de toute façon ont des résultats, et donc du coup leur méthode c'est la mieux et les autres c'est de la merde. Et puis voilà. Donc je pense que ça joue forcément un petit peu. Et puis après, les études sur le comportement des chiens et des chats, il n'y en a quand même pas tant que ça. On étudie beaucoup l'éthologie des animaux sauvages, mais l'éthologie des chiens de compagnie, ça reste quelque chose d'assez... Il y a encore du gros travail à faire là-dessus. Et je pense que beaucoup de vétérinaires sont pas forcément renseignés, sont pas. Alors après, c'est le problème d'une profession généraliste, hein, c'est qu'on peut pas être bon de partout et on peut pas tout connaître et être à jour sur toutes nos, surtout sur l'ophtalmologie, la chirurgie, la dentisterie, le comportement, etc. Donc, bah, y a beaucoup de vétérinaires qui ne s'intéressent pas forcément, qui répètent ce qu'ils ont appris à l'école vétérinaire il y a des années. Et qui sont des concepts qui ont peut-être un peu changé au vu des dernières données de la science. Et ouais, je pense que ça demande du temps finalement de se tenir à jour des dernières études d'éthologie et de les appliquer sans idées reçues et sans mettre trop de biais dans oui. l'interprétation qu'on en fait.
Donc toi, tu partages ton temps aujourd'hui entre le côté solivelle, bien sûr, l'enseignement, le côté éducateur, et du coup la partie veto aussi, où justement t'aimerais de plus en plus développer cette partie comportementaliste, tu me dis.
Ouais, c'est quelque chose qui me plaît. Après, j'ai pas envie de devenir vétérinaire comportementaliste à temps complet non plus. Mm-hmm. C'est vrai que si je suis retourné en clinique en octobre dernier. C'était parce que le côté un petit peu... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact avec le client. C'est, j'adore discuter, mes rappels de vaccins prennent un peu de temps. Parce que on papote, et puis voilà, je trouve ça hyper intéressant, et c'est vrai que c'est... voilà, donc je me plais dans une activité assez généraliste, justement. J'ai pas spécialement envie de me spécialiser à fond dans cette activité de comportement, même si j'ai envie d'être... plutôt bon et plutôt au goût du jour là-dessus. Mais ouais, du coup, ça me plaît bien en fait d'avoir repris cette activité de médecine parce que ben solivette c'est sympa, mais les cas de suivi sanitaire, enfin le suivi sanitaire qu'on fait dans les structures sociales, ça reste, comme je disais, essentiellement de la médecine préventive et c'est voilà, donc c'est des vaccins, c'est des puces électroniques, il n'y a rien d'intellectuellement très palpitant pour un vétérinaire. Sur le côté purement médecine, donc ce qui est intéressant c'est le contact avec le client, mais c'est vrai que le côté médecine me manque un peu et donc le retour en clinique a fait du bien.
Oui, et finalement dans tout ce que tu fais les choses, enfin tout se complète bien en fait, j'ai l'impression.
Ouais, bah c'est sûr en fait, comme tu le disais en introduction, moi ce qui m'anime c'est le lien en fait qu'ont les personnes avec leur animal de compagnie. Et c'est ce que j'essaye de travailler. Alors, si c'est pour des publics précaires ou des publics qui en ont besoin, que ce soit des personnes déficientes visuelles avec l'école chien guide d'aveugle, ou bien des personnes sans domicile fixe avec Solivette, ou bien des clients qui sont complètement dépassés, qui sont au bout de leur vie parce que leur chien fait n'importe quoi et qu'ils comprennent pas et que du coup ils viennent en consultation de comportement à la clinique. En fait, voilà, c'est un petit peu le point commun. Le point commun qu'il y a entre tout ça, c'est ce rapport à l'animal et ce besoin d'aide finalement qu'on peut leur apporter à travers ces différents projets.
Alors tu m'as parlé de next step, de prochaines étapes avant qu'on commence le podcast. Si tu veux en parler au micro.
Ouais, on a une grosse nouvelle étape à Solivette. Puisqu'on se lance, donc après avoir beaucoup travaillé sur ces questions de retour en hébergement, de retour en logement et donc de réinsertion par le logement, on a décidé de s'attaquer au gros chantier de la réinsertion par l'activité économique en créant une pension canine solidaire à Lyon pour les animaux de personnes sans domicile fixe. Pour une raison simple, parce que nous, notre métier, c'est d'accompagner les structures sociales. Et aujourd'hui, le gros frein qui restait auprès des structures sociales avec lesquelles on travaillait, c'était que finalement, une fois que ces personnes précaires sont rentrées dans les centres d'hébergement, sont rentrées dans les accueils de jour avec leurs chiens, on se retrouvait des fois un petit peu bloqué lorsqu'elles devaient se faire hospitaliser ou ne serait-ce que aller faire un rendez-vous administratif lorsqu'elles étaient sans domicile fixe. Parce que un SDF qui dort dans sa tente, dans la rue avec son chien, s'il doit aller à un rendez-vous CAF ou Pôle emploi, sachant que ces bâtiments-là ne sont pas accessibles aux animaux de compagnie et que la personne sans domicile fixe n'a pas forcément l'endroit où laisser son chien parce que on peut pas laisser un chien dans une tente ni à proximité, il va pas rester. et ben du coup elle se retrouvait bloquée avec son animal, et donc derrière ça elle ne se rendait pas à ses rendez-vous administratifs. Donc c'est quand même un frein important à la réinsertion du propriétaire. Donc on avait cette volonté d'offrir une solution de garde sociale qui soit accessible à tous pour les propriétaires bah, sans domicile fixe essentiellement, mais finalement pour toutes les personnes précaires qui n'ont pas accès aux pensions classiques. Et donc on est en train de créer ça sur Lyon. On souhaiterait le créer sous forme d'atelier chantier d'insertion pour boucler un petit peu la boucle finalement et faire en sorte que soit des personnes éloignées de l'emploi, des personnes qui ont connu un parcours de rue, des jeunes sans qualification, etc., qui travaillent dans cette pension, qui prennent soin des animaux, qui les nourrissent, qui les sortent, qui entretiennent les box, qui fassent l'accueil des clients, etc., pour les former aussi au métier du monde animalier et pour pouvoir les réinsérer derrière vers de tels métiers. C'est une pension qui, je l'espère, verra le jour en 2023. On est déjà en cours de recrutement d'un premier poste pour suivre un petit peu ce projet. Et puis, si tout va bien, on devrait ouvrir une petite dizaine de postes en janvier 2023. Pour suivre ce projet-là et pour pouvoir accueillir ces chiens de personnes sans domicile fixe sur des gardes de courte ou moyenne durée.
Super. Et ça fera partie donc de Solivette ou ce sera une association séparée?
Non, alors c'est les ateliers chantiers d'insertion, c'est porté par une association déjà existante. Donc okay. Ce sera porté par Solivette, effectivement, mais après ce sera une activité assez indépendante dans le sens où bah, c'est un nouveau lieu d'activité, donc ce sera pas au sein de nos bureaux, ce sera vraiment de l'autre côté de Lyon, etc. Ça aura sa propre organisation. Et puis nous, on aime bien les systèmes de gouvernance un peu. On essaye de faire le plus horizontal possible. Mmh. Le but, ce sera aussi d'avoir un petit comité de pilotage, un petit comité stratégique autour du projet qui soit composé des personnes qui travaillent là-bas, parce que c'est pas moi, dans mes bureaux à l'autre bout de Lyon, qui vais pouvoir être très pertinent sur ce qu'il faut faire ou pas faire.
Donc ça, c'est 2023. Est-ce que tu as déjà des idées qui sont en train de germer pour 2024 et 2025?
2024-2025, je pense que ce sera grandement tourné aussi autour de ce projet de pension canine, parce que finalement c'est un gros projet à quasiment 250 000 euros. Donc pour faire tourner une grosse structure comme ça lorsqu'on est petit, jeune entrepreneur comme moi, c'est pas simple. Donc après, je m'accorde une petite pause de nouveaux projets pour essayer de faire en sorte que tout tourne et tout s'équilibre un petit peu aussi. Et puis l'idée, si ça fonctionne bien sur Lyon, c'est de pouvoir ensuite répliquer ce modèle-là et l'essaimer sur d'autres villes, parce que bah, la problématique, elle n'existe pas seulement à Lyon. La problématique de l'hospitalisation des personnes SDF lorsqu'elles ont un chien, la problématique d'accueil des animaux de façon temporaire, elle existe dans toutes les villes de France. Donc l'idée, ce sera aussi de monter peut-être un petit modèle de licence ou un petit modèle assez réplicable, en tout cas de pension canine solidaire, qu'on puisse ensuite amener un petit peu partout et monter facilement dans plusieurs villes pour apporter une véritable solution à ce besoin-là. Mmh. Et puis, évidemment, il y aura le déploiement national de Solivette un jour.
Bien sûr.
Alors, savoir si ça sera 2023, 2024, plus tard, c'est compliqué de le dire pour l'instant.
Tu donnerais quoi comme conseil au jeune Théo d'il y a presque 3 ans, fraîchement sorti d'école?
Je pense que d'y aller et d'oser. Je pense que je l'ai pas mal fait, mais c'est vrai que bah, bien souvent sur ces projets-là, on se rend compte que ce qui est limitant, c'est nous plus que les autres. Et c'est toutes les pensées limitantes qu'on se met, tous les freins qu'on s'imagine, alors que dans la réalité, il y en a plein qui n'existent pas ou qui sont beaucoup moins importants que ce qu'on s'imagine. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où on a des moments de doute, où on a des moments de creux qui, en fait, ne sont dus qu'à nous-mêmes. Donc, ouais, c'est vraiment ça que je me conseillerais d'y aller, de tenter. Et puis, au pire, ça marche, quoi.
C'est ça, au pire ça marche. C'est un très bon motif. Et est-ce qu'il y a des conseils en particulier que tu donnerais à un veto, une vétote qui nous écoute, qui veut se lancer dans l'associatif?
D'y aller aussi. Non, c'est génial, l'associatif, on apprend plein de choses. Et puis c'est, pour le coup, je trouve ça hyper complémentaire de l'activité d'un vétérinaire. D'un vétérinaire classique, parce que, enfin, généraliste, parce que l'associatif, c'est avant tout l'humain. Et bah, notre métier vétérinaire, c'est aussi avant tout l'humain, je trouve. Enfin, avant tout l'humain. En tout cas, c'est une grande partie d'humain aussi. Et notamment lorsqu'on est jeune vétérinaire, qu'on sort de l'école, on a un bagage énorme de connaissances théoriques, de connaissances pratiques sur la médecine. Mais c'est vrai que ce côté humain-là, cette fibre sociale, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre sur les bancs d'une école. C'est quelque chose qui doit se confronter à la réalité et qu'on va développer au fur et à mesure de nos consultations, au fur et à mesure de nos rencontres. Et là-dessus, l'associatif aide beaucoup parce que finalement, en allant à la rencontre de personnes dans le besoin ou bien en allant à la rencontre ne serait-ce que de personnes d'un milieu totalement opposé, qui sont bénévoles comme nous, de l'association, etc., on élargit pas mal notre horizon. Et puis, on sort de cet entre-soi vétérinaire qui a des fois un petit peu, surtout lorsqu'on finit l'école, où finalement on a passé 5 ans des fois 7 avec que des vétérinaires et futurs vétérinaires, et notre monde n'est plus que vétérinaire. Et je pense que c'est un peu faut pas oublier qu'on vit quand même dans une société qui est pas que vétérinaire, qui est pas que tournée autour des animaux non plus, et qu'il y a des humains de l'autre côté de la laisse.
C'est quoi ta répartition de temps d'ailleurs entre la clinique et l'associatif aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui à la clinique, je travaille à peu près 2 jours par semaine. Et puis le reste du temps, donc je suis à 3-4 jours par semaine à Solibé.
Ça donne une idée à nos auditeurs, ce qui est faisable.
En sachant que j'ai fait de la salle. C'est pas forcément un bon exemple parce que j'ai fait de l'associatif mon métier. À côté de ça, je suis bénévole dans des associations de maraudes pour les personnes sans domicile fixe. Du coup, cette fois-ci, sans question animale, où on va simplement distribuer des repas dans la rue, etc. Et là, je participe plutôt à hauteur de peut-être 1 à 2 soirs par mois. C'est du coup plus ponctuel. Il y a vraiment toutes les formes d'engagement qui sont possibles. Et vraiment du bénévole ponctuel sur un événement où on va aider à servir à la buvette, jusqu'à de l'engagement régulier. Il y a un panel de possibilités, un panel de milieux dans l'associatif qui est hyper varié. Il y a forcément des missions et forcément des choses qui conviennent à tout le monde.
Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler aujourd'hui sur Vétomicro?
Si, peut-être faire un petit... Je vais faire un petit discours un peu engageant pour les vétérinaires, pour les vétérinaires qui ont envie de se lancer au sein de l'association Vétérinaire pour tous. Je la conseille vraiment. C'est vrai que c'est une belle initiative qui a créé l'ordre, le syndicat et l'AVVAC il y a maintenant quelques années. Et c'est vrai que pour les vétérinaires qui ont envie d'apporter un petit peu cette dimension sociale au sein de leur activité, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez sympa sans être trop prenant. C'est le vétérinaire qui définit à lui-même son niveau d'engagement, qui peut être modulé à tout moment. Donc on n'est pas obligé de faire que du social dans sa clinique, mais par contre, s'il souhaite en faire un petit peu, Vétérinaire pour tous, c'est une super opportunité.
Peut-être tu peux nous expliquer un peu plus en détail pour ceux qui connaissent vraiment pas comment ça fonctionne.
Oui, bien sûr. Donc, Vétérinaire pour tous, c'est donc l'initiative de médecine solidaire qui a été créée dans le cadre du plan France Relance. Il y a 3 axes principaux autour de ça. Le premier, c'est un système de tiers payant pour les personnes qui sont en difficulté, donc des personnes bénéficiaires du RSA, de l'allocation adulte handicapé, minimum vieillesse, etc., pour qui finalement la présence d'un animal est essentielle, parce qu'une personne âgée dans son logement qui choisit d'avoir un chat pour lui apporter un peu de compagnie, c'est super, ça permet de rompre l'isolement, mais par contre, c'est vrai que les petites retraites qu'ont certaines personnes aujourd'hui permettent pas toujours de financer les soins. Et donc, du coup, cette initiative-là permet de mettre en place un système de tiers payant. Donc, un tiers de la facture est prise en charge par le vétérinaire qui adhère. Donc, en gros, qui diminue souvent, c'est il fait disparaître sa marge hein, sur 33% de la facture. Le tiers restant est pris en charge par par l'association Vétérinaire pour tous. Et enfin, le tiers restant reste à la charge du propriétaire, qui du coup n'a plus que 33% de la facture totale à régler, ce qui est déjà beaucoup plus abordable pour des personnes en difficulté. Le deuxième axe de l'association Vétérinaire pour tous, c'est assez proche de ce qu'on faisait à Rivet ou au dispensaire étudiant, pour le coup, qui est de mettre en place des unités de soins vétérinaires mobiles, ou en tout cas en déplacement au sein des structures sociales, des centres d'hébergement, des accueils de jour pour les personnes sans domicile fixe. Donc l'idée, c'est qu'un centre vous appelle demain en vous disant « Écoutez, en ce moment, j'ai 4 propriétaires d'animaux qui ont des chiens à faire vacciner. Est-ce que vous pouvez venir tel jour, de telle heure à telle heure, pour vacciner ces 4 animaux-là » Et le vétérinaire s'y rend et l'intégralité de la facture est prise en charge par l'association Vétérinaire pour tous. Ça coûte rien au vétérinaire ni au propriétaire, son domicile fixe. Et puis le dernier axe qui est pas encore, c'est des campagnes de stérilisation pour les animaux errants. C'est mis en place notamment dans les dom-toms en France métropolitaine. C'est pas encore trop développé. Il n'y a pas eu de financement pour ça, mais c'est quelque chose qu'on est en train de rechercher en ce moment.
Ok, bah super, très clair. En tout cas, on mettra les liens. Je mettrai les liens dans le synopsis du podcast pour que les gens puissent se renseigner plus s'ils le désirent. Et ce qui me fait une bonne transition aussi, est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te contacter s'ils ont des questions justement sur l'associatif, etc. Et si oui, ben par quel moyen?
Bien sûr, ils peuvent me contacter soit directement sur le site internet de Solivet, donc c'est solivet.org. Dans la rubrique contact, il y a un petit formulaire de contact qui arrive directement dans ma boîte mail, soit sinon sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, où on est plutôt actif, donc directement sur la page Olivette, pareil, je les reçois directement derrière. On est une toute petite équipe, on est 2, donc si c'est pas moi, c'est ma collègue, mais l'information passe vite.
Bon, bah très bien, on mettra tous ces liens en commentaire. Écoute Théo, merci beaucoup, c'était un plaisir de te retrouver après 2 ans, et peut-être qu'on se retrouvera de nouveau dans 2 ans pour que tu nous racontes la suite. Merci beaucoup.
Et pas de soucis, merci à toi Sophie, à bientôt.
À bientôt.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.